d'autres problèmes existent en orbite. Là, il y a un problème qui va devenir prépondérant et très important dans les années qui viennent, c'est l'aiguillage de l'espace. C'est la question du Space Traffic Management. L'enjeu est réel puisque certains projets constellaires dépassent le chiffre de 100 000 satellites. 300 000 pour eSpace, qui est une start-up américaine soutenue par le Rwanda et déjà impliquée dans OneWeb. Donc il existe de très nombreux projets et certains sont plus sérieux que les autres. Toutefois, les dimensions et l'encombrement des orbites pourraient rapidement devenir un enjeu spatio-politique et stratégique majeur. Certes, l'espace est immense, mais les capacités d'absorption des satellites sur une orbite sont limitées. Des calculs savants permettent de comprendre que la position d'un satellite doit être précisément déterminée avant son lancement. Et si des corrections de trajectoire sont possibles, elles consomment du carburant et limitent d'autant l'espérance de vie du satellite. Généralement, un rehaussement d'orbite est possible qui permet d'éviter une collision. D'ici 10 ans, ce sont plusieurs dizaines de milliers de satellites qui croiseront entre 500 et 1500 et 2000 km d'altitude. Et un aiguillage de l'orbite basse sera indispensable. Aux États-Unis, la Space Force américaine le prend déjà en compte et le Bureau pour la gestion du trafic spatial du Département du commerce américain s'organise pour réguler la circulation.
Merci beaucoup. Donc je continue un peu sur mes remarques. Vous avez parlé des rentrées atmosphériques et ayant été en poste au Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, je suis obligée de réagir parce que vous avez dit tous aux abris, on ne sait même pas où ça tombe. Je ne suis pas totalement d'accord. Parce que quand même, il y a un service qui se charge, notamment on travaille avec le CNES aussi, de suivre les RAR, donc les rentrées atmosphériques à risque. C'est un suivi qui est quotidien, permanent, H24, etc. Donc on essaye d'anticiper et on essaye de calculer la zone de retombée. Alors la zone de retombée, elle est souvent très large, mais on a vu, je ne sais pas si c'était il y a six mois, etc., des espaces aériens en Espagne notamment qui ont été fermés parce que justement il y a des lanceurs qui entraient dans l'atmosphère. Donc on n'est pas complètement aveugle, on suit ces rentrées de manière parfois précise parce que quand ce sont des gros objets comme des lanceurs, on arrive à les suivre. Et les petits objets, on n'a pas de quoi s'inquiéter puisqu'ils vont se détruire dans l'atmosphère. Mais en France, notamment, les radars de trajectographie, les SATAM, sont utilisés pour suivre de manière précise les rentrées atmosphériques à risque. Donc effectivement, il y a toujours une marge d'erreur, mais on a quand même une idée à peu près où ça va retomber. Et puis on a de la chance puisque la Terre est majoritairement composée d'eau, donc ça c'est quand même assez pratique. Enfin, pratique pour la pollution, c'est moins bien sûr, mais en tout cas pour les zones habitées, c'est un avantage. Donc voilà, c'était juste pour réagir un petit peu par rapport à votre remarque. Vous parlez dans ce même paragraphe du moratoire qui a été initié par les États-Unis. Alors vous dites sur les tirs ASAT, juste
en ascension directe.
Ascension directe, et j'ai rajouté à visée destructive. Et en fait, ce ne sont pas directement sur les tests ASAT, mais les essais de tests ASAT. Et en fait, on a l'impression que ça ne change rien, et en fait, ça change beaucoup parce que quand on dit qu'il y a un moratoire sur les essais, ça n'empêche pas aux États de les développer, de les stocker et de les utiliser si nécessaire. Donc là, on est sur les essais qui ont déjà été faits par les États-Unis, par la Chine, par l'Inde et par la Russie. Donc tous ces pays-là n'ont pas rejoint le moratoire américain. Un certain nombre l'ont fait, mais bien sûr pas les Russes, ni les Chinois, ni les Indiens. La France a rejoint ce moratoire sur les essais. On voit bien que ça n'empêchera pas de nouveaux ASAT si nécessaire. Mais du côté opérationnel, des tirs anti-satellites opérationnels. Mais c'est déjà un point quand même positif qui est noté dans les instances internationales où d'autres États qui n'ont jamais procédé à des tirs anti-satellites rejoignent cette initiative. Mais cette initiative, elle est aussi critiquée par un certain nombre d'États puisque c'est un peu facile pour les États-Unis, ils l'ont fait pour d'autres sujets, d'interdire quelque chose quand on le maîtrise. Donc moi, j'en ai parlé quand même avec des personnes du département de la défense américain, ils m'ont dit « Oui, mais vous savez très bien, vous êtes militaire, que si on ne s'entraîne pas, on perd la capacité, donc on ne l'aura plus. » Donc voilà, c'est aussi leur argumentaire de dire « Non, on abandonne cette donnée et on ne la maîtrise plus. Bon, » moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'ils ne soient pas capables demain de faire un tir satellite si nécessaire. Mais bon, voilà. Il y aura bien d'autres moyens de réplique avant celui-ci qui est vraiment pas optimal, surtout pour les puissances spatiales.